Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence. Sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences. J'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oh là là, où sommes-nous là? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Ah oui, ça y est, ben oui, c'est l'heure, c'est l'heure de l'émission. Où avais-je la tête? Voilà, c'est tout simplement l'heure et je sais que tout va bien se dérouler, je dirais même plus, tout va bien rouler. Et oui, nous allons découvrir plein de choses aujourd'hui, j'en suis convaincu. Guillaume Trage, vous vous souvenez de vos premiers coups de pédale à vélo quand vous étiez tout petit?
Oui, alors il paraît que c'était très tôt et impressionnant, mais ça c'est un souvenir de ma mère, donc... Je ne sais pas si on peut lui donner beaucoup d'objectivité, mais oui.
Allez, on va lui faire crédit de cette appréciation. Mélanie Duguay, même question. Qui fait appel, bien sûr, à vos souvenirs lointains pour vous. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes montée sur un vélo?
Oui, alors je me souviens surtout du vélo sur lequel je suis montée, qui était un petit vélo rouge qui existe toujours, qui est aujourd'hui tout rouillé, et qui était le vélo de mon papa sur lequel, qui lui a permis de se rééduquer suite à une polio. Donc voilà.
Un vélo utile que vous gardez en souvenir. Et vous, Clément Dussong, allez, même question. Vos premiers coups de pédale sur un vélo, j'imagine que dans vos souvenirs, cet épisode s'est déroulé lorsque vous étiez tout petit.
Tout petit à tel point que j'en ai plus de souvenirs, à vrai dire. Donc c'est assez drôle, hein. On s'intéresse au vélo, mais on oublie sa propre histoire.
C'est énorme, parce qu'en plus, avec vous, on va voir quelque chose de très intéressant. Alors, François, à mes côtés, depuis quand vous faites du vélo?
Je crois que c'était j'avais entre 4 et 5 ans, mais je me souviens d'avoir réussi à monter que sur une pédale, d'avoir dévalé la cour et avoir fini dans le mur.
Fini dans le mur, bah, j'espère que vous en êtes remis depuis. Alors, aujourd'hui, avant d'aller plus loin avec vous, j'ai une nouvelle à vous annoncer à tous les quatre. C'est une tradition à ce micro, car c'est le cas pour chaque invité qui accepte de nous accorder un entretien pour l'Étincelle dans la ville. Mélanie, Guillaume, Clément, François, et on retrouvera Amilcar un peu plus loin. Vous voici donc dès cet instant nos nouvelles étincelles dans la ville. Voilà, étincelles du jour. Avec tous les membres de vos équipes, parce que je sais que vous travaillez avec des équipes, eh bien, ils font partie des étincelles du jour. Un sujet passionnant que nous allons développer durant cette émission et qui est une véritable lame de fond pour la société moderne dans laquelle nous vivons. On va voir ça, tout ça ensemble, voilà. Et nous sommes dans un endroit très sympathique. Je vais vous demander de me suivre d'ailleurs. Parce que là, on était en train de boire un coup. Enfin, en tout cas, on était attablé, on va dire ça comme ça. Et ce sujet, c'est bien sûr sur Allegre. Vous êtes bien sur Allegre, c'est l'étincelle dans la ville. On va le mettre en valeur. Et l'étincelle dans la ville, c'est tout ce qui brille dans la ville. Allez, c'est parti, en route vers de nouvelles aventures.
Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'Étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Étincelle dans la ville sur Allegre FM. Ravi de vous retrouver à mes côtés, Mélanie Duguay. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Otrage, bonjour.
Bonjour.
François Delaunay, bonjour.
Bonjour.
Ouais, moi je suis poli, je dis bonjour à tout le monde. Et bien sûr, Clément Dussong, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, aujourd'hui, on est dans un endroit très particulier, si vous voulez bien me suivre d'ailleurs. Nous sommes 11 boulevard Saint-Marcel à Paris. C'est dans un magasin qui s'appelle Esprit Vélo, magasin atelier. Et à mes côtés, j'ai Amilcar. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait du vélo ?
Trop longtemps. Oui, adolescent.
Et alors, ça s'est passé comment ?
Bien, mais il fallait se faire sa place à Paris.
Et on est très heureux que vous ayez accepté de nous recevoir dans cette émission, car nous allons parler, eh bien, vous vous en doutez, de vélo. Mais pas que de vélo. Ce lieu consacré au vélo ici, il est sympa. C'est pour ça qu'on a accepté... Ah, j'ai failli tomber sur le chien, là. C'est pour ça qu'on a accepté ce rendez-vous avec vous, Amilcar. Merci encore de nous recevoir. Je vous ai connu quand vous étiez très jeune apprenti, en électronique. Et vous avez bien pédalé depuis. Hein. Vous faites partie de cette jeune génération du vélo qui conseille, qui répare. Voilà, quoi de plus normal qu'on soit ici avec vous pour vous rendre un petit peu hommage, parce que ça a été un long trajet depuis vos 15 ans.
Oui, tout à fait. Donc, entre le vélo et puis le métier, donc voilà.
Alors, vous n'êtes pas qu'un simple marchand de vélo, vous n'êtes pas qu'un simple réparateur, vous êtes aussi un militant du vélo. Voilà. Alors, quand on parle de mobilité et de vélo, il est nécessaire d'élargir le spectre. Hein. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tous les 4, tous les 5. Une nouvelle, véritable page de l'histoire du vélo est en train de se dérouler à Paris. Un mouvement qui a commencé il y a déjà très très longtemps, timidement, qui a malgré tout une longue histoire derrière lui. On va voir ça avec vous, Clément Dussong. Mais pour cela, il va falloir parler de mobilité, ce que l'on va faire avec vous 4, tout simplement. Voilà. Le vélo, bon, c'est un moyen de transport que tout le monde connaît, ça c'est une chose, mais les mobilités, c'est autre chose, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Ça provoque des phénomènes qui ont des conséquences, et des conséquences qui ont leurs phénomènes. Voilà, on va voir tout ça, mais avant d'aller plus loin, j'en profite pour saluer l'équipe technique parisienne d'Aligre FM. Bonjour Enrico, bonjour Célian.
Bonjour.
Tout va bien de votre côté ?
Oui, tout va très bien, super.
La liaison est bonne ?
La liaison est parfaite.
Tout est calé ?
Yes, tout est parfait.
Magnifique. Alors, est-ce que tout le monde est venu en vélo ? François, vous êtes venu en vélo ?
Oui.
Guillaume ?
Alors, vélo plus train.
Ah oui, ça se met dans un train à vélo. Et vous, Clément ?
À vélo également.
Et Mélanie ?
Alors là, je suis à pied, mais habituellement, je pilote deux vélos, un vélo cargo et également un vélo pliant.
Ah, on va y venir, hein, ces vélos cargo. Nous allons parler donc de ce phénomène qui passionne la société tout entière et qui touche notamment les grandes métropoles françaises et même mondiales. Hein, le vélo, on retrouve ça partout. Et évidemment, ça existe aussi dans les villages, les vélos, dans les petites agglomérations, mais c'est dans des proportions différentes et ça n'a pas forcément les mêmes effets. Et bien sûr, Paris n'y échappe pas, et c'est tant mieux. Alors, trop de voitures, des bouchons, des collapsus de voitures qui bloquent tout, la pollution. Les mobilités à vélo sont les grandes clés des solutions à ces problèmes, et nous allons voir tout ça. Alors, de quoi on parle dans cette émission ? François Delaunay, quand vous m'avez proposé le sujet, bien sûr, j'ai accepté, parce que moi je fais du vélo depuis 50 ans. Hein. C'est, oh là là, ça ne me rajeunit pas. François, je vous laisse faire vite fait la présentation de nos trois invités.
Alors Guillaume, c'est un grand cycliste très élancé, avec un gabarit de rouleur, qui a changé, qui a revendu sa voiture il y a 6 ans, c'est ça, pour plus jamais descendre de vélo. Voilà, et il paraît que c'est en Italie que lui est venue l'idée d'aller faire un raid Paris-Bakou pour la COP29, la COP climat, pour donner du sens au mouvement, c'est ça, c'est bien ça Guillaume ? Et donc, il part dans 15 jours, mais pas tout seul, avec toute une équipe et puis tout un mouvement qui s'est constitué avec Internet, avec les réseaux sociaux, qui vont l'accompagner pour une raison bien simple qu'il va nous expliquer, pour aller proposer aux dirigeants du monde, à Bakou, des mesures en faveur du développement du vélo, investissement dans le vélo. Il paraît que ça rapporte.
On va voir ça en détail. Alors, Clément Dussong.
Ah, Clément qui va... Clément, alors lui c'est l'historien, alors plutôt gabarit grimpeur version Pantani, parce que Robic, plus personne s'en souvient, mais oui, alors donc c'est aussi le docteur S-Vélo, alors docteur, il n'a pas fait médecine, il a plutôt fait géographie, urbanisme, sociologie, et il vient de réaliser une magnifique exposition au musée de l'Arsenal qui retrace toute l'histoire du vélo à Paris. Et imaginez-vous, ça commence en 1828 de mémoire.
On entrera dans le détail. On entrera dans le détail avec vous, Clément Dussong. Et on termine par Mélanie Duguay.
Alors Mélanie, Donc, elle, c'est la chargée de mission de la Fédération des boîtes à vélo. Alors, moi, je connaissais les boîtes à chaussures, mais les boîtes à vélo, je me demande bien ce que ça peut être. Mais je pense qu'elle va nous expliquer tout ça.
Eh bien, on a fait le tour et on est ravis de vous ayez accepté cette invitation. Alors, Guillaume Autrage, 6500 km à vélo depuis Paris. Depuis Paris jusqu'à Bakou, qui, je rappelle, se situe en Azerbaïdjan. Alors, le géographe, c'est où l'Azerbaïdjan?
Ah, c'est au bord de la Caspienne.
La Caspienne, c'est où?
Ah, c'est à l'extrême fin fond de l'Europe, ou du moins au début de l'Europe, si on prend dans l'autre sens.
Alors, si on regarde une map monde, c'est en bas ou en haut?
Alors, c'est grosso modo, pour faire simple, entre la Russie et la Turquie.
6500 km de Paris jusqu'à Bakou. Et donc, un tel trajet, c'est incroyable. Quelle mouche vous a piqué pour vouloir réaliser cette opération?
Alors en fait, c'est venu progressivement. C'est d'abord l'envie de faire du vélo au quotidien. Elle a été supplantée ou elle a été complétée par l'envie de faire du vélo sur des plus longues distances. Donc là, je me suis mis à faire des Paris-la-Mer, des choses comme ça. Et puis après est venu le vélo longue distance sur des. J'ai fait un Maroc-Bretagne sur justement à peu près 6000 km aussi en 2022. Et puis 2023, un voyage en Italie qui devait faire là pour le coup à peu près 3000 km. Et là, je me suis dit, ça serait bien de le faire pour une vraie raison, parce que c'était avant tout un plaisir. Et le fait d'aller vers un objectif et de porter un objectif, notamment celui dont on va parler vis-à-vis de la COP, a été l'étincelle qui a permis de se dire, tiens, on va faire ces 6500 km, mais ce coup-ci avec une mission et avec un groupe de personne.
On va entrer dans le détail durant les 50 minutes qui nous restent. On a le temps, bien sûr. On revient avec vous, Laurent Dusson. On va faire un petit détour à propos de cette incroyable histoire du vélo à Paris. Paris, aujourd'hui, regardé comme l'une des capitales mondiales du vélo. Ça, je ne savais pas, j'ai lu ça dans vos propos que vous avez relatés sur le site, je crois. En 2024, selon une étude de l'Institut Paris Région, 11% des déplacements se font à vélo dans la capitale contre 4% en voiture. Cette situation est l'aboutissement d'une longue histoire dans le Grand Paris avec une accélération importante de l'usage du vélo ces dernières années. Clément Dussong, l'histoire du vélo à Paris commence le 5 avril 1818. Incroyable! Lorsque le baron allemand... Alors attention, qu'est-ce qui parle allemand ici là? Personne? Bon, allez, je me jette. Vous allez me le dire. Le baron Dreis von...
Sauerbrum.
C'est pas mal. Organise une démonstration de son nouveau véhicule conçu l'année précédente en Allemagne, son invention, nommée à l'époque vélocipède ou draisienne, est constituée de deux roues reliées par une poutre et munie d'une barre de direction. Elle doit concurrencer le cheval et les véhicules hippomobiles tous. C'est un sacré programme à l'époque. Alors Clément Dussong, au pavillon de l'Arsenal à Paris, que propose l'exposition à vélo?
Eh bien, comme vous l'avez dit, donc, l'histoire commence en 1818 pour Paris, donc Karl von Drey, très von Sauerbrum, invente son véhicule. Du coup, l'année précédente, en 1817, et en fait, il cherche un endroit, une manière de faire de la promotion pour son nouveau véhicule, qui doit remplacer le cheval, parce qu'on a un gros souci avec une crise, on pourrait dire climatique, aujourd'hui, l'année précédente, puisqu'en fait, à cause d'une éruption volcanique en Indonésie, il y a des gros problèmes de récolte, on a difficulté à nourrir les chevaux sur ces années-là, 1816-1817. Et du coup, le vélo et la draisienne qui va devenir ensuite le vélo est une solution justement pour résoudre ces problématiques-là, tenter de remplacer le cheval. Et donc, l'histoire commence à Paris en 1818. Voilà, on a au fil des sur le début du siècle, on a aussi eu à Paris, mais surtout dans les années 1860, l'invention aussi parisienne, cette fois-ci, des pères et fils Michaud qui vont avoir l'idée de mettre des pédales sur l'axe du moyeu avant de la roue, et dans l'idée du coup de ne plus se propulser avec les pieds, mais de se propulser avec des pédales, et du coup de découvrir l'équilibre à partir des années 1860. Donc la pédale est une invention parisienne, et ensuite continuer l'histoire jusqu'à aujourd'hui.
Tout un programme, effectivement, entre la pédale de la draisienne sans transmission sur la roue, avec une transmission directe, et bien sûr l'invention de la chaîne qui va permettre de transmettre le mouvement, que d'évolution. Et je vais voir avec vous, Mélanie Duguet, parce que vous êtes là aussi pour nous raconter une histoire incroyable. Vous vous intéressez aux vélos utilisés par les professionnels. Dès que l'on parle de vélo, on pense à ceux qui vont au travail, ceux qui vont faire leurs courses, ceux qui se baladent en amoureux. Mais Mélanie Duguet, il y a une catégorie de cyclistes et d'univers beaucoup plus large dont vous vous occupez tout particulièrement. Ce sont les professionnels. En fait, vous vous intéressez à la cyclo-logistique. Alors, vous animez une association, les boîtes à vélo, France, c'est bien ça? Et vous soutenez l'entrepreneuriat à vélo en France. Vous avez un objectif non partisan, c'est ce que vous déclarez sur votre site, qui consiste à promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement professionnel principal. Alors, c'est quoi la cyclo-logistique, Mélanie Duguay? Racontez-nous.
Alors, la cyclo-logistique, c'est le fait d'utiliser le vélo cargo, pour faire de la logistique, donc pour faire des livraisons de colis, de courriers, également de repas préparés. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne le domaine de la livraison à vélo. Aux boîtes à vélo, on fédère les entreprises qui ont choisi le vélo cargo dans le cadre de leur déplacement professionnel, mais pas seulement dans le domaine de la logistique. On le fait également dans le commerce, dans l'artisanat, dans tous les métiers de service. Dans la restauration, on a de plus en plus de vélos resto, de vélos café par exemple. Et puis, on fédère également les fabricants et revendeurs de vélos cargo. Voilà, donc toutes ces personnes font partie de notre réseau. On est un réseau national et on a la chance d'avoir également 13 associations locales à travers la France.
Tout un programme, on entrera aussi avec vous dans les détails durant le reste de cette émission. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent de prendre le vélo en route que nous réalisons cette émission depuis l'atelier magasin Esprit Vélo. Nous sommes 11 boulevard Saint-Marcel à Paris. C'est animé par Amilcar, que je vois à mes côtés s'agiter avec son vélo. Ça va? Ça se passe bien ici?
Très bien.
Alors, ça fait combien de temps que vous êtes installé à Amilcar?
Ça fait 17 ans.
Ouh, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et avant de poursuivre, j'aimerais, sur le sujet bien sûr qui nous préoccupe, permettez-moi de faire un petit détour par le studio Philippe Vanini où sont installées les équipes techniques. Alors j'en profite pour remercier et saluer les équipes de la Ligue de l'Enseignement Fédération de Paris, car c'est dans un des centres Paris animé par la Ligue de l'Enseignement Fédération de Paris que sont installés les studios et la régie. Voilà, je tenais à préciser ceci parce que ça montre l'importance du collectif. Vous restez bien avec nous et on va continuer avec vous pour tous ces détails qui nous touchent sur le vélo, parce que vous êtes tous des spécialistes du vélo, des mobilités, mais avant, on va faire une première pause musicale, si vous me le permettez, ensemble. Alors, le 3 décembre 71, un groupe de rock pose ses valises à Montreux, en Suisse. Le groupe souhaite utiliser le casino de la ville pour enregistrer son prochain disque à l'aide d'un studio mobile. Alors, je ne sais pas s'ils étaient à vélo à l'époque. Un studio mobile qui va permettre de capter uniquement l'ambiance d'un concert. Ce projet sera réduit à néant dès le lendemain, lors d'un concert qui était destiné donc à fournir le son de le bruit de fond en réalité des foules. Eh bien, il y a un incendie qui se déclare dans le casino après qu'un spectateur est tiré dans le plafond avec un pistolet de détresse. Le complexe est entièrement détruit, laissant le groupe sans matériel, sans studio d'enregistrement. La chanson que nous allons écouter est une chanson d'un groupe de hard rock britannique paru en 72 dans l'album Machine Head. Elle relate l'incendie du casino de Montreux, dont le groupe a été témoin, la fumée sur l'eau du titre et celle de la fumée qui se répand sur le lac Léman. Le riff de guitare de la chanson est l'un des plus célèbres de l'histoire du rock. On écoute Smoke on the Water, avec l'accent. C'est Deep Purple, c'est dans l'étincelle dans la ville et c'est sur Aligre FM.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Sur Aligre FM, dans l'étincelle dans la ville, on vient d'écouter Smoke on the Water, la fumée sur l'eau, par les Deep Purple. Et de retour avec nos invités, avec vous, Clément Dussong, avec l'exposition À vélo au pavillon de l'Arsenal à Paris, que vous avez mis en place avec vos équipes, avec vous, Mélanie Duguet, car ce que vous développez autour du vélo avec les boîtes à vélo est très prometteur. Votre activité étant consacrée à la cyclo-logistique, vous avez commencé à nous raconter tout à l'heure. Et vous, Guillaume Autrage, pour ce Paris-Bakou, où vous allez parcourir en vélo une distance de 6500 km, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, et pour porter 10 messages, 10 propositions que vous allez déposer à la COP29. Alors, François, Guillaume, Bélanie, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez quand vous le voulez. Mais ce qui m'intéresse pour commencer et pour continuer avec vous, Guillaume Autrage, c'est loin d'être anodin ce que vous réalisez.
C'est quand même accessible à beaucoup de personnes, hein, parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est on va avoir des distances de 60 à 70 km par jour. Alors certes, on emmène notre équipement pour camper, mais on est très loin de l'ultra, on est très loin des exploits sportifs. En plus, on est ouvert à tout type de vélos, les vélos pas chers, entrée de gamme Décathlon, les plus chers, les gravel, les électriques, on aura accès à tous. Alors c'est pas commun dans le sens où effectivement, si on fait toute la distance, c'est engageant. Tout le monde n'a pas 5 mois à consacrer à un sujet comme celui-là, mais on peut venir aussi de façon plus ponctuelles. Il y a des gens qui viennent avec nous pour le départ, pour le week-end par exemple depuis Paris. Il y a des gens qui vont venir pour une semaine en vacances. C'est un peu à la carte et finalement c'est accessible à plus de personnes qu'on ne le croit.
Si on arrive à vous trouver quelque part, on peut faire 5 km avec vous, c'est bon, ça le fait.
Ah ben tout à fait, vous aurez été un relais des 10 propositions vers la COP29.
Voilà, c'est un peu comme la flamme olympique.
Exactement, mais le parallèle est très juste. Ouais.
Alors, comment on va faire pour vous suivre et vous trouver ? Vous allez avoir un GPS dans votre vélo ? Il y a une carte ? Il y a quelque chose sur une application ?
Alors, en fait, ça va être indiqué sur notre site. On n'a pas encore mis en fait le tracker en place. Mais bien entendu, vous pourrez nous suivre sur nos GPS parce qu'on sera, on va dire, équipé et connecté. Donc ça va être la façon. Et puis, de façon plus ponctuelle, vous avez les réseaux sociaux. On est présent sur toutes les plateformes et bien sûr, vous pouvez nous suivre.
Les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais que l'on comprenne ces 10 propositions, parce que c'est quand même ça le cœur de votre opération, que vous voulez porter à la connaissance de la COP29. Guillaume Autrage, alors c'est quoi ces 10 propositions ?
Alors d'abord, je vais vous donner le contexte. En fait, ce que font les pays à la COP29, ils s'entendent sur des plans quinquennaux qu'on appelle les NDC, les Nationally Determined Contribution. Et en fait, donc ces pays-là, tous les 5 ans, s'engagent sur un certain nombre d'aspects, à la fois qualitatifs et quantitatifs, pour réduire leur empreinte carbone. Donc les prochains NDC arrivent en 2025 et donc seront utiles ou seront suivis jusqu'à 2030. Et l'idée, c'est donc d'arriver à la COP de 2024 et de dire, mettez dans vos propositions, incluez dans vos plans une dimension vélo au transport de façon à utiliser cette méthode pour baisser les émissions carbone. Et donc, je peux vous parler aussi plus des propositions, mais en fait, le contexte, c'est celui-là. Et après, donc, ça se décline et on peut rentrer dans ces détails.
Justement, concrètement, c'est quoi ces 10 propositions ?
Alors, quand on se pose la question de que faire, que mettre comme proposition, d'abord, il faut savoir à qui on s'adresse. Il y a une grande variété de pays à la COP29, des pays qui sont bien avancés sur le vélo, des pays qui sont très en retard sur le sujet du vélo. Donc, une première réflexion, c'est de calibrer en fait ces propositions par rapport à la moyenne des pays. Donc, on a réfléchi collectivement entre participants à ce que pouvaient être ces propositions. On a joint l'avis d'experts et en fait, on est arrivé à 10 propositions qui regroupe plusieurs aspects, depuis le stationnement, l'augmentation du stationnement vélo, l'augmentation des infrastructures. On a une proposition sur ces sujets donc, qui prévoit une croissance de 100% d'ici 2030. Et puis, on a différentes dimensions. On parle bien sûr du vélo cargo. On parle des plans pluriannuels avec des investissements sur les vélos. Et en fait, toutes ces propositions sont, on va dire, déterminées au départ et seront affinées au fur et à mesure du trajet, au fur et à mesure de nos rencontres avec des élus, avec des associations. Et le but, c'est d'arriver à la COP29 et de dire, voilà ce qu'au travers des 10 pays que nous avons traversés, au travers des associations et des élus que nous avons rencontrés, voilà nos propositions sur le vélo.
Vous interpellez les élus, vous interpellez les décideurs avec vos 10 propositions. Alors, vous ne pensez pas que c'est malgré tout très symbolique, même si vous voulez bien sûr faire connaître l'événement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui?
Alors, la symbolique est importante et en fait, justement, je pense que le narratif qu'on a autour de nos sujets de réduction des émissions de carbone est fondamental. Donc, aller vers une COP avec des propositions, alors bien entendu, on verra ce qu'elles deviendront, on verra à quel point elles seront écoutées, mais y aller pour montrer un élan citoyen et puis un élan qui est assis sur justement ce que pensent les associations et les élus, on pense que c'est utile et on pense que ça va être important et contribuer justement au développement du vélo.
Alors, on a bien compris que vous êtes porteur de messages. Vous me faites penser un peu à Gandhi, vous savez, avec sa marche du sel. Sauf que vous, bon, c'est Bakou, lui, c'était l'océan. Mais ça me fait un peu penser à ça. Vous allez emmener derrière vous et avec vous et devant vous. Il y en a qui vont vous attendre à vélo, bien sûr. Vous comptez arriver quand et dans quel état, si je peux me permettre?
Alors, on sera, comme je vous ai dit, on va y aller doucement. Donc, d'ailleurs, notre slogan, c'est « on roule doucement pour qu'il le change rapidement ». Donc, on va y aller doucement, on espère en le meilleur état possible. On n'hésite pas à faire des pauses en chemin. On arrive en fait le 11 novembre, donc le début de la COP, qui va se dérouler pendant 10 jours, et après se posera la question du retour.
Eh bien, justement, j'allais vous la poser, la question du retour. Tout le monde vous la pose. Je vous l'ai posée hier en préparant cette émission. Vous rentrez comment?
Alors, d'abord, on ne rentre pas en avion, parce que ça, c'est effectivement la question que se posent beaucoup de personnes. On ne rentre pas en avion, nous allons faire du multimodal avec du train, du bus, peut-être du bateau. Et on n'est pas encore certain de la façon de le faire. Ce sera un sujet qu'on abordera en temps et en heure, mais il est certain qu'on va trouver une façon de rentrer. Ce qui n'est pas sûr, c'est le temps pour rentrer. Mais en tout cas, on va rentrer avec ces moyens de transport. L'idée étant qu'une fois qu'on aura fait ces 6500 km, on sera content de pouvoir les faire en autre mode de transport.
Aligre FM 93.1.
Alors, il y a un point de départ, un point zéro. Vous ne l'avez pas choisi par hasard. C'est vrai que c'est le point zéro de tous les kilométrages en France. Hein. Ah bon, vous me faites un petit nom, c'est pas Notre-Dame?
Oui, alors on a changé le point de départ.
Je suis dans le jus, là.
Mais non, mais ça, c'est bien, c'est l'intérêt de cette émission. Donc, on va communiquer là-dessus. En fait, on va partir de devant l'esplanade du Trocadéro, qui nous a semblé plus propice à une belle photo avec la tour Eiffel, plus symbolique et mieux en termes d'espace. Donc, c'est l'esplanade du Trocadéro.
Ouais, puis, il y a plus de place, il y a moins de travaux, ce sera plus tranquille. Donc, vous nous donnez la date, bien sûr, de démarrage, c'est quand?
Alors, c'est le samedi 15 juin. Ça va se dérouler à partir de 9h30, accueil à partir de 9h30. On se préparera, on a un certain nombre de préparatifs à faire en tant que participant un peu collectif, un certain nombre d'interventions, et puis 10h30, le timing du départ depuis l'esplanade.
Alors, même si votre vélo va parcourir une grande distance, ceux qui ont de simples vélos, vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent vous rejoindre, mais le vôtre, il est quand même équipé spécial course, si je puis dire.
Alors non, en fait, moi j'ai un principe de dire que je pars avec des vieux vélos d'occasion. Je ne peux pas citer des marques, hein, peut-être. J'ai commencé, mais je ne vais pas continuer. Mais en tout cas, je suis plutôt sur des vélos d'occasion. Alors là, il se trouve que ce vélo d'occasion est cassé. Je n'ai pas pu retrouver le bon, mais en tout cas, je pars avec un vélo entrée de gamme.
Eh bien, on va revenir vers vous, Guillaume Autrage. Cette aventure me paraît absolument incroyable à mes yeux. En tout cas, Clément Dusson permet... Permettez-moi, puisqu'on a évoqué la date de 2030, c'est marrant, c'est une date pour plein de choses, 2030, je ne sais pas pourquoi. 2030, c'est aussi la date butoir de votre exposition. Qu'est-ce qui se passe en 2030 à Paris avec la mobilité et les vélos?
Eh bien, bonne question. Alors, c'est difficile, hein, évidemment, de prédire l'avenir. Et l'exposition est une exposition historique, donc elle a plutôt l'intérêt d'essayer de déconstruire, historiciser des pratiques actuelles. Donc pas forcément la prétention, on va dire, de prédire l'avenir. Toutefois, on a quand même des certitudes, hein. On le voit aujourd'hui, on a une dynamique de la croissance de l'usage du vélo, des politiques en faveur du vélo à Paris et en Île-de-France qui sont suffisamment mûres pour être prolongées. On le sait, on peut, entre guillemets, avec certitude, se dire qu'on a des projets et une croissance de l'usage qui va aller jusqu'à 2030, notamment avec des projets d'infrastructures, d'aménagement cohérents à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle de la métropole, notamment avec des différents projets, par exemple le vélopolitain au niveau parisien en termes d'infrastructure.
C'est quoi le vélopolitain?
C'est un projet d'infrastructure cyclable cohérent à l'échelle de Paris. Il y a également le réseau VIF, donc Vélo Île-de-France, qui est le prolongement d'une proposition associative qui s'appelait du coup historiquement le RERV. Et donc l'idée, c'est de penser un réseau d'infrastructures cyclables à l'échelle de l'agglomération et surtout qui est cohérent et qui ne subit pas les problématiques que pourraient avoir des projets qui arrêtent à chaque limite administrative. Bon, sur la question de l'aménagement cyclable, il y a un enjeu de cohérence, de continuité, de linéarité de l'infrastructure, de lisibilité aussi à l'échelle de l'ensemble de la région. Et donc, on a aujourd'hui des projets qui permettent, qui ont, on va dire, une ambition d'être cohérent à l'échelle métropolitaine. Et donc, 2030, c'est une bonne étape où on devrait arriver sur une fin de ces projets-là, qui sont des projets d'aménagement qui prennent du temps, qui nécessitent aussi de la coordination et coopération de l'ensemble des acteurs, évidemment des communes, des intercommunalités, des départements et régions en Île-de-France pour arriver à des aménagements qui fonctionnent à l'échelle, encore une fois, de l'agglomération.
Et des investissements, j'imagine, très lourds.
Des investissements lourds, en effet. Alors après, ça reste des investissements en faveur du vélo, sur des infrastructures vélo, donc ça reste évidemment beaucoup moins cher que les infrastructures, notamment en faveur des transports en commun, que ce soit site propre, par exemple, que ce soit même simplement du tramway, ça reste beaucoup moins cher, ou même que de la voiture, du routier. Il faut imaginer forcément que l'infrastructure en faveur du vélo, typiquement, la question de la route, de la structure de la route, forcément, c'est quelque chose de beaucoup moins robuste que si on fait passer, évidemment, des tramways, où en plus, il faut lever matériel roulant, ou même simplement des voitures, parce que le poids des véhicules n'est pas le même. Donc ça reste très coûteux, mais beaucoup moins que plein d'autres systèmes de transport, mais surtout ça nécessite une cohérence, parce que comme on le sait, en Île-de-France, on est sur un morcellement administratif entre les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, ce qui fait qu'il faut aussi la coordination de tous ces acteurs-là, et ça prend du temps, et on ne peut pas faire un aménagement linéaire de Paris jusqu'à la Grande Couronne d'un coup en un clin d'œil. Il faut faire des étapes, et puis peut-être on passera, et on passe déjà par des étapes où on a un peu, on va dire, des confettis d'aménagement. Progressivement, ça se relie, mais on est sur une dynamique de long terme et qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à 2030, mais sûrement encore après.
Quelle énorme évolution depuis 1818, lorsque ce baron allemand présente le premier vélo, on dira, avec ses aménagements de l'époque qui étaient probablement inexistants pour rouler dans Paris. Tout le monde roulait l'un sur l'autre. Et évidemment, malgré les installations déjà existantes dans certaines villes, dont Paris, encore beaucoup de boulot en perspective. Alors, d'ailleurs, j'ai lu dans votre expo, j'ai découvert qu'à l'époque, cette activité du vélo en 1818, c'était un plaisir très bourgeois, très, très, très répandu dans ces milieux.
Alors, 18, c'est vraiment la première démonstration. Donc, avant que ça se démocratise dans les milieux bourgeois, il faut quand même quelques années. Mais en effet, sur les années, fin des années 10, donc 1810, 1820, 1830, c'est une pratique plutôt de dandy, on va dire, et donc principalement de sportifs bourgeois aussi. Évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Par exemple, évidemment, pas les femmes à l'époque. Donc, c'est vraiment plutôt des sportifs à l'époque qui font ça. Et parce que le véhicule est nouveau, très, très lourd. Donc, c'est, on va dire, plutôt des acrobates. Et c'est à partir des années 1860 qu'on rajoute la pédale, et ensuite il y a plein d'innovations qui vont permettre d'ajouter la transmission, qui est une invention britannique, et après le développement du pneu, de la chambre à air démontable dans les années 1880, qu'on aboutit au vélo moderne, qui correspond au vélo classique qu'on a aujourd'hui, qui permet une démocratisation, mais qui reste en effet limitée aux élites bourgeoises. Le vélo coûte extrêmement cher, évidemment, et donc c'est principalement des pratiques urbaines, donc dans le centre des grandes villes. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs de voir qu'à l'époque, les enjeux de cohabitation, en fait, on les a entre du coup des urbains plutôt bourgeois qui vont à la campagne, qui sortent de la ville et qui commencent à avoir des conflits avec les paysans qui cherchent à leur tirer dessus, qui leur envoient leurs chiens. Et donc typiquement, les cyclistes de l'époque sont souvent armés pour pouvoir se défendre, par exemple, des animaux ou des locaux qui peuvent être dérangés. Donc c'est d'ailleurs intéressant de voir ces oppositions entre urbains, cyclistes, et ruraux qui ne connaissent pas encore ces véhicules et qui découvrent ces enjeux de cohabitation en espace rural.
Nous sommes entre les deux guerres, avant de devenir évidemment un moyen ultra populaire. Vous l'avez raconté, il a fallu se munir, se procurer ces vélos qui coûtent encore très cher, mais il se passe un événement très important à partir des années 70, une lame de fond, le vélo devient un symbole de l'écologie politique. On se déplace, et tout d'un coup, ça devient politique en 70. Racontez-nous, Clément Dusson.
Mai 68, comme souvent, un impact assez important sur plein d'évolutions de notre manière de penser et de questionner aussi notre société moderne et capitaliste. Et en fait, dans l'élan de 68, hein, il y a plein de mouvements sociaux dans les années 70 hein, qui sont évidemment pas spécifiques au vélo, pas spécifiques à l'écologie politique, mais en tout cas qui permettent de redonner une nouvelle image du vélo qui devient un symbole et outil de l'écologie politique. Et donc là, on a typiquement des manifestations à vélo orientées sur l'écologie avec un discours plutôt anti-automobile, en tout cas de lutte contre la pollution de l'air, notamment de lutte contre la pollution de l'air dans les grandes villes. Et à Paris, voilà, on a des premières manifestations le 22 avril 72 avec la création de premières assos militantes vélo écolo. Voilà, qui n'est pas un cas spécifique parisien, aussi on a ça dans d'autres villes françaises, typiquement à Strasbourg ou à Grenoble en premier en France, mais aussi à l'international, notamment par exemple aux Pays-Bas, qui est un peu le début de la politique cycliste aux Pays-Bas, qui aboutit aujourd'hui, 50 ans après, à un réseau et un système vélo qui fonctionne à l'échelle du pays.
Et je me souviens d'une grève Juppé droit dans ses bottes, qui a permis de sortir des caves les vieux vélos, les vieux biclous. Tout le monde s'est précipité. C'est une grève qui a duré un bon moment, qui a relancé évidemment la pratique du vélo, qui a permis d'augmenter la pratique du vélo. Et bien sûr, l'arrivée de Vélib, c'est quand même un élément important, Vélib.
Oui, bien sûr. En fait, l'histoire du vélo à Paris, notamment du retour du vélo, elle est ponctuée par plein de moments, plein de crises. Alors, il y a évidemment la grève de décembre 95 qui va permettre de lancer un premier plan vélo par Jean Tiberi au début de l'année 96. Mais...
avec des petits traits verts par terre comme piste cyclable. Alors, ça, les pièges à vélo, on les appelait les cibles à vélo.
Oui, les couloirs de la mort. Alors ça, c'est un peu avant, c'est en 82 sous Chirac. Mais en effet, on a pas mal d'étapes comme ça qui vont permettre de redonner de la place au vélo, redonner de la visibilité. Et le Vélib, évidemment, est un peu un symbole de ce moment où le vélo redevient une image d'un véhicule utilitaire pour des déplacements, notamment domicile-travail, et pour des déplacements urbains. Donc bien sûr que le Vélib, qui arrive du coup en juillet 2007 à Paris, a un gros impact sur l'évolution de l'image et qui va aussi être suivi par d'autres services en location libre-service, que ce soit dans d'autres villes comme Lyon qui l'avait déjà mis en place, mais aussi d'autres villes qui vont s'inspirer de ce Vélib parisien.
Mélanie Duguet, je reviens vers vous car les boîtes à vélo que vous avez mises en place n'utilisent pas la draisienne du baron allemand, hein, bien sûr, et heureusement, vous êtes dans le lourd, hein, vous êtes dans le costaud. Hein. C'est pour les artisans, c'est pour les entrepreneurs, avec des engins qui commencent à fleurir dans les villes, on les voit passer, les vélos porteurs, le vélo cargo. Alors, racontez-nous, Mélanie Duguet.
Oui, alors en effet, on n'est pas dans la draisienne. Alors, on est dans le vélo cargo et quand on parle du vélo cargo, on parle de ce qu'on appelle, on distingue cinq modèles, hein, biporteur, qui est un vélo à deux roues avec une caisse devant, un triporteur, qui est un vélo à trois roues avec une caisse devant, tricycle, qui est un vélo à trois roues avec une caisse derrière.
Alors qu'on comprenne bien, c'est un vélo normal, n'est-ce pas? Mais devant, il y a une boîte avec une roue qui permet de transporter des marchandises ou même des gens. J'ai vu qu'on emmène les enfants, on emmène des adultes aussi. On voit même passer des taxis-vélos maintenant.
Oui, tout à fait. Alors en fait, je trouvais ça important de vous présenter les différents modèles parce qu'ils peuvent s'adapter à différents secteurs, différents types d'entreprises, différents métiers en fait. Donc le vélo peut être est une solution sérieuse, efficace, écologique et économique qui permet de transporter des charges jusqu'à 300 kg. Donc c'est quand même pas anodin. En Europe, 42% des trajets avec transport de charges en ville peuvent être faits à vélo et tout en restant compétitif.
Donc on l'a bien compris, mais on le redit pour nos auditeurs, à vélo cargo, c'est-à-dire un vélo aménagé qui peut supporter une charge importante.
Tout à fait. Comme je vous dis, jusqu'à 300 kilos. Souvent, l'objectif quand même est de faire en sorte que de plus en plus d'entreprises modifient leur flotte de véhicules et changent leurs camionnettes par des vélos cargo. Alors nous, on n'est pas pour.
Dans une camionnette, on transporte pas. On transporte beaucoup moins que sur beaucoup plus que sur un vélo cargo.
Il y a beaucoup de camionnettes qui font des déplacements presque à vide, en fait. Et il y a beaucoup de matériel qui sont ce qu'on appelle des au cas où, donc du matériel qui va servir une à deux fois par année et qui finalement prend beaucoup de place et transporté régulièrement, mais pour rien, parce qu'il est inutile.
On va continuer avec vous, Mélanie Duguay. Il est né à Kingston en 1951 et ce qui va suivre va vous plaire, j'en suis certain, je l'espère. Et je sais que ça va faire aussi plaisir à Fouya, qui réalise et anime chaque semaine l'émission Dance Hall Reggae Vibes, tous les samedis à partir de 20h sur Aligre. Et comme de nombreux interprètes de sa génération, c'est avec une voix douce et chaleureuse que ce chanteur a su séduire toute une génération depuis la Jamaïque, connue sous le nom de Sleepy. Il est dans la pure tradition du reggae, mais précisons-le, c'est Bill Weaver qui a écrit la chanson que l'on va écouter après avoir regardé le film de Black Edwards en 62, Days of Wine and Rose, dans lequel Jack Lemmon et Lee Remick incarnent un couple qui sombre dans l'alcoolisme. On écoute Horace Andy, la chanson a pour titre Ain't No Sunshine, et c'est sur Aligre. C'est sur Aligre FM et c'est des étincelles dans la ville, voilà.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Wondering this time where she's gone. Wondering if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Horace Andy sur Aligre FM, une chanson qui a pour titre Ain't No Sunshine. Et c'est bien sûr dans l'étincelle, dans la ville, à consommer sans modération. Et je rappelle à tous nos auditeurs qui viennent, eux, d'arriver et de prendre le vélo en marche, que nous sommes dans le 13e arrondissement de Paris, actuellement 11 boulevard Saint-Marcel, à Esprit Vélo, pour notre plus grand bonheur, en compagnie de nos invités Mélanie Duguay, de l'association Les Boîtes à Vélo, Clément Dusson, commissaire scientifique de l'exposition À Vélo, qui a lieu actuellement jusqu'en septembre. Et oui, entrée gratuite, c'est ça, hein, Clément ?
Oui, gratuit en libre accès du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Voilà, et je vous recommande vivement d'y aller, tout simplement. Et Guillaume Autrage, vous qui réalisez un raid très important. Alors, on a eu une discussion d'ailleurs entre le ride et le raid.
Oui, alors effectivement, on était parti sur le nom de raid qui nous allait bien pour l'aspect à la fois sportif et puis longue distance. Et puis on s'est aperçu, alors on le savait un peu, qu'il y avait une connotation un peu négative, un peu raid, razzia, agression, qui peut exister un petit peu en français, mais qui existe de façon plus importante en anglais. Et donc voilà, donc sur les demandes des anglophones, on a changé le raid en raid.
Et donc c'est un Paris-Bakou. Bakou en Azerbaïdjan, avec les 10 propositions que vous nous avez évoquer, parce que évidemment, si on entrait dans le détail, ça demanderait beaucoup plus de temps, et que vous allez déposer à la COP21 par le biais d'une association.
Alors, c'est une précision, c'est la COP29.
Mais, 29, ça effectivement.
Aussi. Ça marche aussi. En fait, il faut savoir que dans les COP, ne parle pas et n'intervient pas qui veut. Il y a effectivement une sélection qui est faite, qui est progressive suivant qui on est. Donc, nous, comme l'initiative vient de démarrer de cette année, on utilise des relais, enfin, on fait levier avec des associations. Et il y en a une qui est particulièrement importante à la COP, qui est l'ECF, donc la European Cycling Federation, qui est présente officiellement à la COP et qui sera capable d'être, espérons-le, le vecteur de nos propositions.
Clément Dusson, je reviens vers vous parce qu'en France, c'est quand même la patrie du vélo, c'est quand même des centaines de millions de téléspectateurs tous les ans pour le Tour de France, c'est pas n'importe quoi, hein, surtout qu'au fur et à mesure que les pays se sont mis à avoir des sportifs qui se sont intégrés à cette grande épreuve, eh bien, ça a augmenté évidemment le nombre de téléspectateurs. Comment se fait-il que le vélo de tous les jours, s'était un peu cassé la figure et qu'il a redémarré ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est intéressant cette histoire du Tour de France parce que c'est souvent vu en effet comme un argument pour dire que voilà, la France et les Français s'intéressent au vélo. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse, je dirais même. Parce qu'au final, le Tour de France, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'un intérêt pour le cyclisme et pour les courses cyclistes qui était beaucoup plus important que le seul Tour de France. Il faut penser que dans les années 20, les années 30, à Paris, il y a des courses de porteurs de journaux, il y a des courses de livreurs de triporteurs, il y a des courses du coup en vélo cargo.
Des courses de garçons de café.
Des courses de garçons de café, alors là plutôt à pied, mais il y a aussi énormément de courses dans les vélodromes, hein, dans plein de vélodromes qu'il y a dans Paris intramuros et dans sa banlieue. Et au final, en fait, progressivement, ces courses vont progressivement disparaître. Et la seule course qui va avoir encore un peu d'intérêt à l'échelle nationale, ça va être le Tour de France. Mais c'est vraiment la fin d'un intérêt pour le vélo, et notamment au moment où le football devient un peu le sport favori des Français. Donc, au final, non, le Tour de France, c'est vraiment la dernière chose qui reste de notre culture cycliste et d'une culture cycliste qui s'est totalement délitée. Et pour se limiter aux années 70, 80, 90, en effet, plutôt la pratique sportive avec une pratique utilitaire qu'à côté. Tellement disparu. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi cette segmentation entre les univers, entre un univers cyclisme sportif qui va se maintenir tant bien que mal et une pratique utilitaire qui va totalement disparaître, de la cyclo-logistique qui existait jusqu'aux années 50-60 qui disparaît à tel point qu'aujourd'hui il faut des associations pour défendre le retour de la cyclo-logistique. Donc voilà, on va dire que le cyclisme sportif et le Tour de France, c'est un peu les derniers restes qu'on a d'une culture cycliste qui s'est constituée sur la première partie du XXe siècle et jusqu'aux années 50-60.
On le voit bien, des crises successives sur l'histoire du vélo à Paris. C'est le thème de votre exposition que vous avez montée au pavillon de l'Arsenal, que je recommande à tout le monde d'aller voir. C'est une très jolie exposition avec des engins incroyables. Des engins d'ailleurs qu'on retrouve Mélanie Duguet, qui existait déjà, les cargos à l'époque. Je vais m'adresser à Clément Dusson, je reviens vers vous.
Oui, tout à fait. Hein. Dès la fin des années 1890 à Paris, on a de l'usage utilitaire avec des triporteurs notamment. Donc c'est le triporteur qui est le type de véhicule utilitaire et de vélo cargo qui est le plus répandu à l'époque, qui sert alors principalement pour de la livraison de proximité, donc notamment les bouchers, les boulangers qui font de la livraison directement à domicile à proximité, qui vont rester communs évidemment pendant l'entre-deux-guerres, aussi massivement se développer pendant la guerre. On a aussi tout à l'heure évoqué la question des vélos-taxis qui est extrêmement commun pendant l'occupation. Et ensuite, ces véhicules-là vont se maintenir un peu jusqu'aux années 50-60 avant progressivement de disparaître totalement du paysage parisien dans les années 70, 80, 90. À tel point qu'aujourd'hui, les vélos cargo, ça nous semble être quelque chose de nouveau, mais au final, c'est une sorte de retour avec des véhicules évidemment différents. L'assistance électrique change évidemment beaucoup les choses. Et puis les matériels, c'est des vélos aussi beaucoup plus agréables à conduire que les vélos de l'époque, j'en doute pas.
Et la boucle est bouclée, effectivement. Alors, Mélanie Duguet, la longue histoire du vélo à Paris et d'ailleurs ailleurs se poursuit pour bâtir un modèle de ville de plus en plus écologique, pratique, convivial. Il y a quoi d'écologique dans le déplacement du vélo? Parce que sur un vélo, on met une personne, mais dans un autobus, on met 50, 80, 100 personnes. Je ne sais pas exactement d'ailleurs combien on en met. Alors, c'est quoi le gap? C'est quoi la différence? C'est quoi le bénéfice?
Alors nous, on se concentre sur les activités professionnelles et le bénéfice est quand même important parce qu'il faut savoir que comparativement à un véhicule utilitaire léger, un vélo cargo est 7 fois moins polluant. Donc c'est quand même assez important et il y a 20 fois plus de bénéfices sur la santé que de risques pour les usagers du vélo cargo.
Et effectivement, on voit passer de plus en plus de vélos cargo dans nos villes. Je me souviens, allez, je vais vous parler un peu de ce qui m'est arrivé il y a 30-40 ans, j'étais en Hollande et j'avais participé à un déménagement à vélo. C'est-à-dire que les déménageurs étaient arrivés le matin avec des grands vélos, on avait mis la grosse armoire, le frigidaire sur un autre vélo, etc. C'est évidemment ce qu'on voit se développer aussi en ville, les déménagements et même les vélos-taxis. Alors, les vélos-taxis, d'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez peut-être deux mots à nous raconter.
Oui, alors, on entend beaucoup parler de ce sujet-là. Transporter des personnes à vélo cargo, c'est une bonne idée. Encore faut-il le faire correctement en respectant certaines règles. Les membres de notre association qui transportent des personnes travaillent dans les règles. Ce qui n'est pas le cas de tous les vélos-taxis en ville, notamment à Paris, il y en a beaucoup et on ne voudrait pas que les confondre avec ceux qui travaillent dans les règles, les tuk-tuk.
Et quelle association pour ces professionnels, s'il y en a qui nous écoutent là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent vous appeler, bien sûr, ils peuvent aller sur votre site internet, mais qu'est-ce que vous allez leur raconter s'ils veulent, je ne sais pas, une entreprise veut s'équiper, comment ça se passe?
Alors, avant de leur raconter quelque chose, on va d'abord les écouter pour vraiment comprendre leurs besoins et essayer de voir ce qui les intéresse dans le vélo cargo et puis essayer de comprendre comment fonctionne leur organisation aussi pour voir quel matériel convient. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ça prend quand même un diagnostic avant de se lancer dans la conversion. Si on a une flotte de 500 véhicules, il faut étudier un petit peu le sujet avant de savoir combien de vélos cargo serait pertinent. Et puis, il faut quand même réorganiser la façon de travailler. Il y a un gros travail d'accompagnement du changement aussi à faire au niveau des employés. Voilà.
Et j'imagine qu'en termes de zone géographique, on ne peut pas se permettre d'aller livrer à Marseille depuis Paris du ciment ou du plâtre avec un vélo cargo.
Alors, pas sur une si longue distance. vous pouvez tout à fait transporter, comme je vous dis, on peut transporter jusqu'à 300 kg dans un vélo cargo. Et dans Paris intramuros, ça se fait, il y a 10 km de large. C'est tout à fait faisable.
En fin d'émission, on précisera avec vous, Mélanie Duguay, où est-ce qu'on peut découvrir votre association et les conseils que vous prodiguez, bien sûr. Alors, j'aimerais une petite précision. La régie, si vous pouvez me dire combien de temps il me reste, là, parce que je n'ai pas branché mon chrono au démarrage.
Là, il te reste 5 minutes, à peu près, un peu moins.
Eh bien, on ne va pas tarder à conclure cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure avec vous, Guillaume Autrage? C'est quand même un sacré défi à mes yeux, hein, 6500. Alors vous êtes un vieil habitué quand François m'a appelé en me racontant votre histoire, et vous l'avez décrit aussi. C'est pas nouveau pour vous, mais quand même, pour le commun des mortels, c'est pas de la tarte aux pommes ce que vous allez réaliser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire et quel finalement objectif vous souhaitez une fois que ces 10 propositions sont déposées? Quel retour sur investissement de l'opération vous souhaitez?
Alors, peut-être une dimension sur laquelle on n'a pas assez insisté, c'est vraiment la dimension internationale de ce qu'on est en train de faire. En fait, on a effectivement des Français, mais on a des Hollandais, des Allemands, des Bulgares, des Turcs qui nous rejoignent. Donc, il y a un vrai effort international. Donc, ça, c'est super, super important à comprendre. Et on pense qu'avec ça, en fait, on va déclencher un rendez-vous entre les vélos et les COP. Alors, il y a déjà eu ce type de déplacement qui a été fait, mais nous, on souhaiterait que ce soit systématique. Et là, on le fait pour la COP 29 et on souhaite que ce soit fait régulièrement. Donc, lancer le mouvement pour que ce soit un rendez-vous systématique et annuel.
Un rendez-vous systématique et annuel. Je voudrais remercier tous les membres du collectif qui travaillent sur l'organisation et la gestion de la station Aligre FM et tous les bénévoles qui au quotidien sont en action. Je ne les citerai pas, j'ai plus le temps. Merci aussi à toute l'équipe technique, à la régie son. Merci pour toute votre attention, Enrico Mastrogiani, Armand Célian. Alors, ça s'est bien passé de votre côté?
Ouais, très bien, parfait.
Super. Sans oublier toute l'équipe de production de l'Étincelle dans la ville, Stéphanie Malaret, Gaspard Proudhon, que je remercie et que j'embrasse d'ailleurs très fort. Voilà.
L'Étincelle dans la ville, c'est avant tout une émission sociétale qui donne la parole, qui va à la rencontre d'initiatives, de mouvements encore trop méconnus, de systèmes imaginatifs qui méritent d'être mis en valeur. C'était le cas aujourd'hui avec ce que vous faites tous les trois. C'est, on continue. Hein. Mélanie Duguay, il n'y a pas de souci. Clément Dussong et Guillaume Autrage. Alors, bien sûr, vous vous référez au site internet. Alors, le site internet Boîte à vélo.
lesboitesavelo.org.
Bon, j'imagine pour l'expo, c'est pavillon de l'Arsenal.
Tout à fait, pavillon-arsenal.com.
Et vous, comment on va vous suivre, Guillaume? Ça va s'appeler comment, là où on va vous suivre sur Internet, en un mot? On n'a plus de beaucoup de temps.
Oui, alors très vite, le mieux, c'est de faire Google, vous faites COP29 vélo et vous tombez sur notre site.
Parfait, eh bien, on vous suivra nous-mêmes de notre côté. Eh bien, on va bientôt terminer cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, c'est l'étincelle-dans-la-ville@gmail.com. Alors, merci à tous les quatre et je sens que la petite nappe musicale a démarré normalement, hein, Christo Redentor. Ouais, ça y est, la voilà. Vous pouvez retrouver cette émission chaque lundi à 9h et chaque vendredi à 20h sur votre poste de radio. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur le site d'internet Aligre FM, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Je ne peux que vous inciter de bien rester à l'écoute de nos programmes sur Aligre FM. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Bonne route à vous, bien sûr, Guillaume. On vous suivra de près. Et tenez-nous au courant, Mélanie Duguay, et puis Clément, quand vous faites une autre expo, vous nous tenez au courant. Et un dernier mot, merci à Amilcar, qui est au fond. Amilcar, j'ai plus beaucoup de temps, mais on ira boire un petit café tout à l'heure ensemble. Voilà. Allez, ça fait plus de 43 ans que ça dure sur Aligre FM. En ce qui nous concerne, pour l'instant, tout se termine, car l'étincelle dans la ville, c'est terminé.
Les brouillages de sinistre mémoire ont repris.
En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran.
Aligre FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.
Aligre FM 93.1.